France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. La fascination pour la souffrance, pour la mort, mais aussi pour la beauté. Un écrivain dont les thèmes traités dans ses romans étaient modernes, mais dont le langage était très classique, représentatif d'un moment crucial de la société japonaise. L'enfance de l'auteur, eh bien, un grand-père inexistant, de très mauvaises relations avec le père, et une grand-mère qui quasiment le séquestra. Yuko Mishima, dans Une vie, une œuvre, par Bénédicte Niogret, première diffusion sur France Culture, le 15 novembre 1990.
その時、金閣が現れたのである。威厳に満ちた、憂鬱な、繊細な建築。剥げた金箔をそこかしこに残した豪奢の亡骸のような建築。近いと思えば遠く。
Mishima, l'épée et le cerisier. Le cas Mishima, c'est l'histoire d'une construction personnelle, au-delà d'une reconnaissance sociale et d'un talent d'écrivain salué dès ses débuts. Son histoire pourra s'appeler « L'épée et le cerisier ». L'épée, c'est celle de sa mort éclatante par seppuku, ou harakiri, selon le terme plus communément introduit en Occident, le 25 novembre 1970, à l'âge de 45 ans, selon le rite traditionnel, en se tranchant le ventre avant qu'on ne lui décapite la tête. La fleur de cerisier, c'est l'emblème de la tradition samouraï, dont Mishima se voulait l'héritier. Fleur destinée à mourir, au terme d'une éclosion si brève et si éclatante.
Alors je voudrais juste citer une phrase de Mishima sur la pureté, parce qu'on y retrouve aussi toute sa sensualité, son goût du concret. Alors Mishima écrit « La pureté, une idée qui rappelait les fleurs, le goût piquant d'un bain de bouche à la menthe, l'enfant qui s'agrippe au doux sein de sa mère. La pureté, c'était quelque chose qui les reliait directement à l'idée du sang, à l'idée de sabre s'abattant sur les hommes d'iniquité, à l'idée de l'âme écharpant l'épaule et faisant gicler le sang alentour, et à l'idée du seppuku. Dès l'instant qu'un samouraï tombait comme fleur de cerisier, son cadavre maculé de sang devenait aussitôt comme d'odorantes fleurs.
Au fond, les héritiers des samouraïs aujourd'hui, n'est-ce pas, ce sont les chefs d'entreprise et les banquiers.
Yukio Mishima, de son vrai nom Hiraoka Kimitake, est né en 1925. Il descend en partie d'une famille de samouraïs, mais cet héritage sera sublimé, d'abord par sa grand-mère qui s'occupe de lui pendant sa petite enfance, puis par lui-même jusqu'à sa mort. Il étudie d'abord le droit, selon le désir de son père, mais très vite, son vrai rôle sera celui d'un feu follet, excentrique et déroutant. Son talent littéraire est reconnu dès l'adolescence. Il obtient les plus grands prix littéraires du Japon, mais sa vie est hors norme. Il est aussi acteur et exhibitionniste. Quoiqu'acceptant le mariage et devenant pour ses deux enfants un bon père, il célèbre l'homosexualité. Ses œuvres touchent à tous les genres. Romans, on se rappelle du Pavillon d'or, mais aussi romans de gare, nouvelles, pièces de no ou de kabuki, théâtre, comme Madame de Sade. En France, le succès de Mishima est nettement posthume. Le tournant des années 80, 10 ans après sa mort, lui apporte une nouvelle gloire avec tout un mouvement éditorial de traduction et publication, couronné par le livre de Marguerite Yourcenar qui venait d'être élue à l'Académie française et qui lui consacre un essai, Mishima ou la vision du vide. Mishima qui disait « Quand quelqu'un sait, s'il n'agit pas, il ne sait pas ».
C'était un homme extrêmement courtois, assez distant au départ. Ce qui est très curieux, c'est que cet homme qui aimait le Japon traditionnel et vivait dans le souvenir et essayait d'en créer un nouveau dans le sens traditionnel, vivait tout à fait d'une façon européenne.
Nicolas Bataille.
Il ne se mettait jamais en kimono. Il n'avait pas de maison japonaise, alors que la plupart des Japonais vivent dans des maisons japonaises, vous savez, avec des, ce qu'on appelle des tatamis, des nattes, etc. Et c'est ce mélange qui était troublant, lui, car on sentait une force très japonaise, pour nous, étrangers, qui l'approchions, et en même temps, un vernis européen. Et même dans son œuvre, les thèmes de Mishima sont en principe très modernes, mais le langage de Mishima est très classique. Imaginez un auteur français moderne écrivant dans le style, disons, de Balzac ou de Flaubert.
Je crois que j'aime son énergie, que j'aime son goût de la beauté dont il ne se départit jamais.
Annie Tchéki.
Que j'aime le fait que tout en touchant des sujets qui pourraient paraître morbides, fascination de la mort, souffrance, etc., finalement, je ne suis jamais déprimée à la lecture de Mishima parce qu'il me semble qu'il y a une vitalité extraordinaire chez cet homme.
Il est représentatif d'un moment de l'histoire littéraire japonaise.
Claude-Michel Cluny.
Mais en fait, il est à cheval sur une tradition, sur une tentation du modernisme, ou plus exactement de la modernité. Il est en même temps un écrivain qui s'est trouvé à la coupure d'un moment d'histoire japonaise extrêmement crucial. C'est-à-dire que le Japon traditionnel s'est effondré pour laisser place à un Japon tout à fait différent, apparemment, en tout cas différent dans ses moyens d'expression et dans ses moyens d'action. Et Mishima a justement été l'un des seuls non seulement à exprimer cela, mais à l'assumer au point d'en mourir.
Quand vous faites suicider, vous mettez
pistolet
dans la tête. Mm-hmm. Ça veut dire votre existence, c'est la tête. Ça veut dire vous tuez la tête. Mais japonais, le harakiri, ça veut dire notre existence, c'est vendre. Ça veut dire c'est la conception d'existence, c'est différent.
Sono toki. 金閣が現れたのである。威厳に満ちた、憂鬱な、繊細な建築。剥げた金箔をそこかしこに残した豪奢の亡骸のような建築。
Mishima m'a dit:
Ma famille appartenait à une secte zen. Je ne suis pas pratiquant, mais je suis inconsciemment influencé par le bouddhisme zen. Le zen ne croit pas aux mots. Moi, je m'exprime par les mots, c'est mon métier. Si je suis influencé par le zen, c'est qu'en fin de compte, je ne crois pas en l'authenticité des mots.
Il est le fils aîné donc dans sa famille, et à sa naissance, enfin quelques jours après sa naissance, 49 jours je crois après sa naissance, sa grand-mère l'a carrément séquestré dans la chambre qu'elle occupait au rez-de-chaussée en prétendant que c'était plus rassurant pour l'enfant de ne pas avoir un étage à monter. D'ailleurs, elle avait le droit de le faire. Une belle-mère a tous les droits sur la jeune femme qui est venue habiter sous son toit.
Et le grand-père ?
Le grand-père était inexistant. La grand-mère avait le plus profond mépris pour le grand-père, elle avait le plus profond mépris pour son fils, qui était le père de Mishima. Et ainsi, elle a voulu se rattraper sur le petit-fils, qui lui est, enfin, tout enfant, c'était lui l'homme qui devait être vigoureux, énergique, aristocrate, intelligent, étant donné que son mari et son fils n'avaient pas du tout répondu à ses attentes. Mais en plus, c'était une femme malade, une femme tout à fait, une très forte personnalité, malade, ayant des crises d'asthme, des migraines épouvantables. Et donc l'enfant a vécu sans pouvoir ouvrir la bouche, sans pouvoir faire de bruit, sans jouer des petites voitures, sans avoir de compagnon de son âge. Et également en aidant sa grand-mère à se soigner et en assistant à des crises qui étaient tout à fait impressionnantes à voir.
Il aimait beaucoup sa grand-mère, mais il a vraiment été enfermé dans cette chambre avec des odeurs de pharmacie. Et c'est certainement quelque chose qui a dû le marquer profondément. Et là, enfin, on sait que Kaobata et Mishima ont eu un rapport assez intense, une grande amitié entre eux. Et je me suis demandé si Kaobata, qui avait vécu adolescent, qui était resté orphelin et qui était resté seul en face de son grand-père aveugle et qui observait passionnément ce vieil homme qui était en train d'agoniser, a eu le même type d'expérience que Mishima. Et dans leur solitude, leur goût de la souffrance, leur regard très aigu sur autrui, il me semble qu'il y a là une analogie entre les deux écrivains.
On ne sait rien des rapports de Mishima et de son père, hein.
Extrêmement mauvais. Ils sont très mauvais. Le père était un fonctionnaire d'État. Il voulait que son fils soit un bon fonctionnaire, qu'il fasse son service public. Et quand il trouvait dans la chambre de son fils des manuscrits, des livres, des papiers, il était absolument furieux. Parce que dans sa pensée, un écrivain, c'était un marginal. Il ne gagnerait jamais sa vie, il serait malade, il serait phtisique, il se droguerait. C'était absolument pas l'idée qu'il se faisait d'un honnête citoyen de l'État. Il voulait donc que son fils fasse une grande université et entre dans un ministère, ce qu'il a fait d'ailleurs, mais pour un an, sans plus. Et d'autre part, on peut peut-être penser qu'il y avait une relation très intense entre la mère et le fils. Et que le père était un peu gêneur là-dedans. Et d'ailleurs, Mishima a retrouvé sa mère avec bonheur quand elle avait 12 ans. Et juste à ce moment-là, le père était parti pour 4-5 ans à Osaka. Donc les deux se sont retrouvés avec beaucoup de joie. Et quand le père est rentré, c'était très différent.
Pour revenir à la grand-mère, est-ce que vous croyez que c'est elle que Mishima tenait son culte du Japon traditionnel ?
C'est probable, parce que elle est apparentée à la famille Tokugawa, qui était la famille du shogun, la dynastie shogunale depuis 2 siècles et demi. Je pense qu'elle était d'autant plus hantée par ce Japon ancien que elle n'était pas elle-même d'une aristocratie très grande, donc il y avait tout de même une part de mythologie personnelle dans cet amour pour le Japon.
Mais elle a transmis justement la part mythologique à Mishima en l'inscrivant à une école qui était réservée justement à des enfants du milieu aristocratique. Donc c'est elle qui a fait Mishima, le personnage Mishima.
Oui, parce que cette école ne convenait vraiment pas à Mishima. La famille n'avait ni les ressources financières, ni un haut statut social, ni le rang d'aristocrate qui pouvait justifier cette école. Mais c'était une revanche pour elle. Et d'autre part, c'était une fanatique de théâtre.
Et de kabuki.
Et elle a emmené tout jeune l'enfant au kabuki.
Et donc, elle aimait notamment les scènes assez sanglantes, je crois, qui sont dans le kabuki.
Oui.
Il y avait de quoi effrayer un enfant, peut-être.
L'effrayer, mais aussi lui donner le goût du théâtre. Parce que Mishima n'est pas simplement épris de la tragédie. Il adore le théâtre, tout simplement. Il aime se déguiser. Et il adore tout ce que Baudelaire appelle le lustre. Enfin, qui est dans les décors, les lumières, les parfums, les beaux costumes. Être acteur, il est fasciné par l'acteur en tant que tel.
J'aimerais revenir également sur un point qui est l'importance du regard dans l'œuvre de Mishima. Est-ce que c'est ce regard qu'il avait déjà enfant, comme il le raconte dans Confession d'un masque, qui l'a amené à ce goût forcené du théâtre ?
Oui, certainement. C'est-à-dire que c'est à la fois ce regard qui le sépare du monde et qui pourrait lui donner un sentiment d'exclusion. Mais en même temps, c'est ce regard qui le transforme lui-même en spectateur et qui fait que automatiquement tout ce qu'il voit prend des allures de pièces de théâtre et de tragédie. Et nous avons beaucoup parlé de tragédie. Je crois qu'on pourrait également évoquer le rôle que peut avoir le no, qui est une forme théâtrale japonaise très ancienne, dans l'esthétique de Mishima. Et précisément dans le no, il y a ces deux personnages. Il y a le shite, qui est l'actant, et qui est celui à qui est arrivé des choses extraordinaires jadis, qui serait donc, entre guillemets, le héros tragique de nos tragédies. Et puis il y a le waki, qui est ce moine itinérant qui est assis dans un coin et qui regarde de tous ses yeux et qui écoute de toutes ses oreilles. Et il me semble que Mishima, à la fois dans sa production et dans son être, est un peu la synthèse de ces deux personnages. Celui qui, comme le Shite, veut vivre intensément, a une soif de vie et a des moments extrêmement intenses. Et comme le Waki, celui qui regarde intensément, en mettant toujours entre lui et le monde une sorte de distanciation. Et dans ses œuvres, moi personnellement, j'ai l'impression que je sens toujours ce regard esthétique. Que même s'il s'incarne dans un personnage, par exemple le lieutenant de patriotisme, qui est tout de même une certaine projection de Mishima, il me semble que le regard reste toujours extrêmement esthétique, qu'on n'est pas dans le personnage lui-même, mais qu'on prend une distance par la beauté, par les métaphores extrêmement belles à l'égard de ce personnage.
Vous croyez qu'on peut parler de voyeurisme ?
Bah, il y a carrément du voyeurisme dans un certain nombre de livres de Mishima. Le voyeurisme du jeune homme, de l'enfant dans Le marin rejeté par la mer. Un voyeurisme beaucoup moins agréable dans Toutes ces vieilles personnes des tomes 3 et 4 de la tétralogie. Là, il s'agit carrément d'une sorte de décadence de la passion, de déclin. On ne peut plus que voir la tragédie des autres. Sinon, je ne vois pas de perversité dans le regard de Mishima. Il regarde, il contemple, il admire, il vibre.
À la fin de sa scolarité, donc dans l'école des pères, précisément à Tokyo, il y a un événement assez important pour lui parce qu'il rencontre l'empereur.
Oui.
C'était à quelle occasion ?
C'était à la fin de sa scolarité, il était le premier de sa promotion. Et à ce titre, il a été reçu par l'empereur qui devait lui donner une montre en argent. C'était la récompense promise au meilleur élève sortant de l'école des pères. Et il a été très ému de cette rencontre personnelle. Il a trouvé que l'empereur avait l'air très doux, très gentil. Donc il a ajouté une sorte de reconnaissance personnelle, de gratitude tout à fait personnelle à cette fidélité, cette loyauté envers l'empereur qu'avait tout japonais à cette époque.
Alors, un autre événement assez important qui est un petit peu postérieur, c'est justement la guerre arrive. Oui. Mishima veut s'engager dans l'armée et il est refusé. Vous pouvez nous relater cet épisode ?
Oui, c'est dans les dernières années de la guerre. Son père l'avait inscrit dans un bureau d'enrôlement à la campagne en se disant que parmi les paysans bien costauds, son fils si pâle risquait peut-être d'échapper à la conscription.
C'est donc le père qui avait fait ce choix.
C'est ce que j'ai lu. Et donc effectivement, Mishima arrive malade, toussant, ayant finalement un gros rhume, mais il avait pris tellement d'aspirine la veille qu'il avait des palpitations et que le... Alors là, les récits divergent un peu. On ne sait pas si le médecin s'est vraiment trompé et a vu une tuberculose qui n'existait pas. Ou alors, s'il s'est dit que c'était vraiment pas la peine d'envoyer à la mort ce garçon si faible qu'il valait mieux qu'il rentre dans ses foyers. Donc, il a été... Comment dit-on
Réformé.
Il a été réformé. Et finalement, contrairement à ce qu'on pouvait attendre avec cet amour de la guerre, il a été heureux comme tout. Il a couru comme un fou jusqu'à la gare. Il a été très heureux d'être réformé. Et ensuite, il s'est interrogé sur cette réaction qui était assez imprévisible. Et bon, plus ou moins, on peut penser que la mort anonyme, la mort sur un champ de bataille, dans la boue, sans aucune gloire, n'était pas exactement ce qui correspondait à son fantasme. Mais ça a d'énormes conséquences, parce que il a toujours gardé en travers de la gorge une guerre qu'il n'a pas faite. Et d'une certaine manière, il a essayé de reconstituer une situation lui permettant une guerre personnelle. Et c'est peut-être comme ça qu'on veut expliquer la formation de la Société du Bouclier et également tous les entraînements militaires très durs qu'il faisait faire à lui-même et à ses jeunes recrues autour du mont Fuji. Il a recommencé en 66-67 ce qu'il avait raté en 1944.
Il a été passé la visite médicale en province dans son village, et chez les paysans, où le contraste entre la robustesse et la vigueur des paysans et le côté assez quand même gringalet et souffrant de Mishima était plus apparent.
Diane de Margerie.
Je pense qu'il a vraiment tout fait pour ne pas être enrôlé. Et le verdict a été qu'il avait une pleurésie, alors qu'au fond, il avait une simple bronchite. Mais Mishima n'a absolument rien fait pour contrecarrer ce diagnostic. Et toute la compagnie avec laquelle il aurait dû partir à la guerre a été liquidée. Hein. Ils sont tous morts. Et je pense que c'est resté chez lui comme une sorte de culpabilité terrifiante au cours de toute sa vie. Et je pense que donc cette obsession du suicide, cette passion des kamikazes, cette passion des gens qui s'immolent, est liée au fait qu'il n'a pas fait la guerre, certainement.
De quoi les mots servent-ils à l'esprit quand celui-ci finalement prend conscience que la fin est en vue ? Un admirable exemple en miniature de ce qui se passe en pareil cas se trouve dans une collection de lettres écrites par de jeunes hommes de l'escadrille suicide avant de s'envoler pour leur dernière mission et que l'on conserve aujourd'hui dans l'ex-base navale d'Etajima. Un jour, visitant le musée vers la fin de l'été, je fus frappé du contraste remarquable entre la plupart des lettres rédigées dans un style solennel bien ordonné et telle autre correspondance expédiée en hâte au crayon. Tandis que je lisais dans les vitrines le dernier testament de ces jeunes héros, soudain, je sentis que je venais de résoudre une question qui me tracassait depuis longtemps. En un tel moment, les hommes emploient-ils les mots pour exprimer la vérité, ou bien essaient-ils de s'en faire un mémorial ?
Toute cette œuvre est tissée de fantasmes, par exemple du contraste entre le moderne et l'ancien, entre la jeunesse d'aujourd'hui et la jeunesse d'autrefois, le code des guerriers, entre le blanc des visages et le rouge du sang, entre le vieillissement et la jeunesse. Parce qu'enfin, il faut bien dire aussi qu'il y avait chez Mishima une passion du corps qu'il a vécu totalement jusqu'au bout par son bodybuilding. Il s'est complètement refait de ce corps assez maigre, mince qu'il avait. Il a fait un corps d'athlète avec une volonté de faire. Et il s'est fait d'ailleurs photographier tous les muscles saillants, portant le sabre. Et
il avait un corps que désormais il acceptait. Il avait un corps très très musclé, il avait fait tout le nécessaire, 3-4 jours d'exercice par semaine, d'exercice intense. Donc il pouvait présenter à l'exercice physique et à la mort éventuelle un corps digne de ce nom, un corps classique. Avant la mort d'un petit palichon sur un champ de bataille anonyme, non, c'était pas l'idéal esthétique auquel il rêvait.
Mais je crois que cette pratique culturiste avec laquelle il s'est livré effectivement avec beaucoup de volonté et de détermination, il a commencé au retour d'un voyage en Grèce.
Oui.
Est-ce que vous savez un petit peu qu'est-ce qu'il a marqué, justement, qu'est-ce qu'il a ébloui dans cette découverte de la Grèce ?
C'est le soleil. Et il y a du soleil au Japon, mais le soleil était marqué de manière très négative pour lui, parce que la reddition inconditionnelle du Japon a été prononcée par l'empereur le 15 août 1945, par une journée éclatante de soleil. Et dans beaucoup d'œuvres, on évoque cette date comme une date où le soleil était tombé à pic, était absolument terrible. Et le soleil est resté lié à cette tragédie, à la reddition du Japon. Et à ce moment-là, il était plutôt romantique, plutôt amoureux de la nuit, de l'ombre, plutôt que du soleil. Mais dès qu'il est parti, enfin c'est ce qu'il raconte, dès qu'il a mis le pied sur le pont du bateau à Yokohama, il a exposé son corps au soleil. Et ça, c'était plus du tout le même soleil. C'était pas le soleil de la mort, c'était le soleil de la vie, le soleil de la santé, le soleil de l'évasion quand même d'un carcan familial. Et il a donc, quand il est arrivé en Grèce, c'était vraiment un soleil joyeux. Et il a toujours parlé de la tragédie grecque, par exemple, pas du tout comme quelque chose de sinistre, mais de quelque chose qui exprimait l'intensité de la vie et même une certaine allégresse de la vie. Donc toute la Grèce, tout son cycle grec, est marqué par quelque chose de joyeux, de lumineux, de fort, de vigoureux. Et c'est vraiment le retour à la vie, c'est le choix de la vie. Et ce qu'il caractérise par son classicisme. Et en revenant au Japon, il a vraiment basculé du côté de la vie. Et il a décidé, enfin, je crois, de devenir lui-même petit à petit ce beau jeune héros tragique qui jusqu'à présent était l'autre qu'il regardait avec fascination, mais dont il se sentait totalement exclu. Là, avec la Grèce, le bronzage, le sport, il y a un mouvement de bascule. Après tout, il peut être lui aussi cet être bien musclé, bien dans sa peau, qu'il admire chez les autres.
Pour Mishima, la signification de l'empereur était tout à fait nette.
Tadao Takemoto.
On pourrait même la résumer en deux mots, puisque pour lui, un empereur n'est que le représentant de la grande déesse solaire Amaterasu. Et je crois qu'il a raison, puisque dans cette grande cérémonie nationale qui approche...
Du couronnement de l'empereur.
Voilà. Qu'est-ce qu'il va faire, l'empereur actuel? Il va justement se montrer en tant que représentant de son plus grand ancêtre, divin ancêtre, la déesse de la lumière. C'est absolument shintoïste, puisque tout se réfère là au mythe du Japon, dont le point culminant est la réapparition de la grande déesse solaire dans ce monde, puisque elle s'était fait cacher dans une grotte céleste, toujours d'après ces mythes, en tant que en témoignage de sa grande colère contre son propre jeune frère. Est-ce que ce frère a fait n'importe quoi comme acte sacrilège? Mais ce qui est important dans l'imaginaire de Mishima par rapport à l'empereur est le fait qu'il a peut-être inconsciemment, je ne sais pas s'il était vraiment inconscient, mais il a inconsciemment joué ce rôle de ce frère sacrilège par rapport à la grande déesse solaire.
Nous savons bien qu'il avait une armée privée. Il avait même dessiné lui-même les costumes. Dans Le Soleil et l'Acier, ce recueil, il raconte ses expériences avec des parachutistes, comme après une journée d'efforts épuisants, ou un autre moment où il courait énormément. Il avait construit ses muscles.
Marie-Claude de Brunhoff.
Je crois que pour lui, muscles, acier et soleil, c'est la même chose. Ça a l'air un peu grandiloquent de dire ça, mais c'est l'approche de la mort.
Les muscles sont devenus progressivement quelque chose qui s'apparente au grec classique. Ressusciter la langue morte nécessitait la discipline de l'acier. Pour transformer le silence de la mort en éloquence de vie, l'aide de l'acier était essentielle.
Lors de l'apparition du livre d'Alain Calavilégier consacré à Pierre Loti, vous avez écrit, Claude-Michel Cluny, concernant l'exhibitionnisme de Loti, qu'il aurait été intéressant en fait de faire un parallèle entre Loti et Mishima. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ce parallèle éventuel?
Oui, enfin, c'est amusant, en fait. Ce n'est pas très important, mais c'est amusant. Le parallèle, il est décelable dans l'attitude de chacun de ces deux personnages, qui, à l'origine, sont... Pierre Loti était tout petit. Il était un peu malin, etc. Il s'est mis à faire des exercices physiques pour acquérir une prestance, une musculature, etc. Exactement comme Mishima plus tard. Il y a un troisième personnage qui peut être également mis sur le même terrain, c'est pas avec lequel on peut jouer, c'est Thomas Edward Lawrence, qui était également petit, qui était malingre, qui lui aussi a développé ses facultés de résistance, d'entraînement, etc., qui est devenu une sorte de personnage ascétique et increvable. Et tous les trois étaient en même temps obnubilés par un souci de représentation, par une espèce de vocation à la théâtralité, qui fait que Lotti n'arrêtait pas de changer d'apparence, de changer de déguisement. Ce qui était chez Lawrence, l'adoption du costume arabe dans lequel il se baladait, alors que ce n'était pas toujours nécessaire, il s'était absolument transformé, il était devenu un bédouin parmi les bédouins. Chez Mishima, il se faisait représenter en Saint-Sébastien, ou bien il s'était fait fabriquer pour lui et pour sa mini-garde prétorienne un uniforme un peu extravagant. Il a interprété lui-même le seppuku qui est tiré de patriotisme et qui va être une sorte de répétition de sa propre mort. Enfin, ce sont trois écrivains, trois personnages dont les caractéristiques extérieures, si je puis dire, sont d'une manière assez troublante, très voisines les unes des autres. D'un point de vue aussi intéressant pour la psychologie de l'œuvre, n'est-ce pas, c'est que tous les trois, n'est-ce pas, avaient sexuellement une attirance fondamentale pour les garçons. Alors, ça s'est traduit chez Lotti par du théâtre, ça s'est traduit chez Thomas Edward Lawrence par un dévouement à la cause arabe et chez Mishima par une bisexualité évidente qu'il n'a jamais cachée.
Dans les trois cas, c'est un peu une construction de soi, justement.
C'est une construction de soi, tout à fait. Il y a véritablement l'élaboration du personnage qu'il souhaitait incarner, et avec une sorte d'énergie farouche, enfin. C'est très curieux. Ça peut en même temps sembler tout à fait fou et tout à fait ridicule, n'est-ce pas ? Mais pourtant, je crois que ça appartient profondément à leur nature, ça reflétait profondément leur nature, et en tout cas, ça n'a pas été sans incidence sur l'œuvre.
Pas non plus séparer en effet Mishima de l'Occident, étant donné que toutes ses premières lectures, ses premiers enthousiasmes étaient anglais ou français. Il a été très formé par Oscar Wilde, par sa lecture des romantiques, des français du 19e. Et il avait le goût de la métaphore, le goût du symbolisme, le goût du baroque, de l'outré, et il a puisé tout ça certainement en Occident. Donc c'est un geste où on ne peut pas dissocier l'Occident de l'Orient, parce que de toute façon il avait une maison à l'occidental, il venait souvent en Occident, il allait souvent en Amérique, en France. Je veux dire, c'est vrai que c'est un ensemble. C'était un être absolument international.
Pour moi, il a vécu le paradoxe d'un bout à l'autre.
Casé.
Pour ça qu'il m'intéresse beaucoup, et j'ai beaucoup lu les pièces de théâtre, j'aime beaucoup, et les essais. Mais quand j'étais au Japon, comme je n'étais pas très mûre, et j'ai beaucoup méfié des légendes qui entouraient les écritures de Mishima, et je me méfiais beaucoup de lire chef-d'œuvre de Mishima. Donc, c'est la première fois que j'ai lu Le Pavillon d'Or, c'était en France.
Quelles sont les légendes qui entouraient Mishima ?
Il était toujours, à mon avis, c'est obligé de s'affirmer devant le public. C'est très narcissique. Donc, il a publié l'album de photos. C'est pour montrer son bel corps avec la musculature, très, très belle musculature. Et il avait la réputation de homosexualité. C'est toujours un peu légende scandaleuse. Et bon, il a fréquenté les gens qui avaient des réputations homosexuelles. Et ce n'est pas vraiment scandaleux, mais quand même, dans le contexte social du Japon, c'était assez scandaleux. C'est toujours provocatrice. C'est parfois, c'est caricatural. Moi, je estime beaucoup et je ne voulais pas vraiment gâcher le plaisir de vraiment bien lire son écriture. Mais par contre, les essais, et il ne faisait pas vraiment... il était plus naturel. C'est, en plus, comme il est très intelligent, et dans ses essais, il montre vraiment son point de vue très pétillant. C'est beaucoup d'esprit. J'ai beaucoup de plaisir de lire ses essais pour comprendre Mishima qui m'intéressait beaucoup. Et bon, comme j'aimais beaucoup Oscar Wilde, Radiguet, Cocteau, certainement Mishima, il a lu ses livres. Et bon, quand il parle de ses écrivains, c'est très intéressant. En plus, comme il est très intelligent, c'est par rapport aux autres écrivains, c'est par rapport aux autres critiques. Ce qu'il dit est très clair, très lucide. C'est ça qui m'a intéressé beaucoup, c'est la lucidité, la lumière qu'il porte dans son écriture. C'est assez rare. En plus, quand il écrit des romans, son style est vraiment très beau, très dense. Et je pense maintenant, c'est qui peut écrire comme Mishima, c'est... Je ne vois pas.
Une forte musculature, un ventre tendu et une peau rêche, me disais-je, devaient correspondre respectivement à un esprit combatif et intrépide, à une capacité de juger intellectuellement sans passion et à un tempérament robuste. Je me hâte de souligner ici que je ne crois pas que les gens ordinaires soient ainsi. Même ma modeste expérience personnelle suffit à me fournir d'innombrables exemples d'esprits timorés, enchâssés dans une musculature abondante. Il reste que, comme je l'ai déjà signalé, les mots, dans mon cas, précédèrent la chair, si bien que l'intrépidité, le détachement, la robustesse et toutes ces marques de caractère que résument des mots devaient se manifester au dehors par des signes corporels.
Autre élément biographique là qui est plutôt conformiste, c'est le mariage donc, de Mishima en 58. Je crois que c'est pour faire plaisir à sa mère finalement, qui a aussi été condamnée pour encore une erreur de diagnostic par un cancer.
Oui.
Et est-ce que c'est quelque chose d'important dans la vie de Mishima?
C'est important pour le standing d'un écrivain. Il est un homme peut avoir la vie qu'il veut, mais pour être pris au sérieux dans son travail, aussi bien s'il s'agit d'un écrivain que d'un industriel.
On parlait du Japon, là.
Oui, il faut. C'est bien qu'il ait une femme, parce que ça prouve que c'est un homme responsable qui est capable d'élever une famille.
Et donc il a eu deux enfants.
Oui.
Comment s'est-il comporté comme père? Est-ce qu'on sait un petit peu?
Il paraît que par rapport à la moyenne, c'était un très bon mari et un très bon père. Qu'il trouvait le moyen de s'occuper d'eux. Et il emmenait très souvent sa femme avec lui en voyage, qui n'est pas tellement courant.
On peut remarquer qu'en général, la jeune femme est une exception dans l'œuvre de Mishima.
Dominique
les
Horry.
Héroïnes qui apparaissent dans les œuvres de Mishima sont généralement des femmes d'un certain âge, qui ne sont plus du tout jeunes. Par exemple, après le banquet, a pour héroïne une femme de 50 ans, qui est une fille du peuple, qui a gagné beaucoup d'argent en dirigeant un restaurant et qui s'éprend, à 50 ans passés, d'un Japonais qui a 10 ans ou 15 ans de plus qu'elle et qui est d'une famille aristocratique, qui est un homme politique de gauche, d'une famille aristocratique. Ils s'éprennent l'un de l'autre, ils se marient, elle décide de l'aider dans sa campagne électorale, il pose sa candidature au poste de préfet de la ville qu'ils habitent l'un et l'autre, et elle y dépense toute sa fortune. Par parenthèse, il y a là le tableau de la vie publique ou de la vie parlementaire japonaise qui est quelque chose de tout à fait curieux, tout à fait inattendu. Non seulement elle y dépense toute sa fortune, mais la manière dont elle fait la campagne, prenant la parole elle-même, indigne absolument son mari. Et peu à peu se révèle dans la contradiction qu'il y a entre les manières de Kazu et les manières de Noguchi. Kazu est une plébéienne, Noguchi est un aristocrate. Toutes sortes de choses que Kazu trouve toutes naturelles révoltent profondément Noguchi et finalement ils divorceront. Lui retournera dans la petite maison, car c'est un homme qui n'a plus d'argent, dans la petite maison où il prend sa retraite, et elle retournera dans son restaurant qu'elle avait fermé mais qu'elle rouvrira. Elle empruntera de l'argent à des amis politiciens et elle rouvrira son restaurant et elle reprendra sa vie solitaire, ayant perdu ce qui avait été une des fascinations de son état de femme mariée, ayant perdu la consolation qu'elle se proposait d'être ensevelie dans le tombeau familial de son mari, c'est-à-dire d'avoir ce qu'elle n'a pas, une famille qui prierait pour elle et par conséquent la sauverait de la conséquence de tous les péchés qu'elle a commis dans sa vie.
Mishima, dans un entretien, disait « Comme dans la société, donc la société japonaise, la femme occupe une place prépondérante dans notre littérature. Vous avez en France, vous, une littérature d'homme, disait-il, avec envie, je crois. Et c'est ce qui manque à la littérature japonaise. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque de Mishima ?
Effectivement, dans l'histoire littéraire japonaise, il y a une très nette différenciation entre la culture féminine et la culture masculine. Et apprendre les caractères chinois représente un effort très considérable, qui n'était réservé qu'aux hommes. Ça apparaît donc plus noble, plus aristocratique, et les femmes en étaient généralement exclues, sauf quand elles réussissaient à s'imposer dans les écoles confucianistes. Et ce fait de langue est assez intéressant, parce qu'il est certain que la langue sinisée est une langue beaucoup plus ferme, beaucoup plus âpre, beaucoup plus viril, entre guillemets, pour parler comme Mishima, et que la langue de katakana est une langue beaucoup plus fluide et qui reflète beaucoup plus la subjectivité. Et Mishima a toujours choisi une langue masculine, et il adorait Morioguai, qui est un écrivain du début de Meiji, et c'est précisément parce que Morioguai, pour lui, représentait le côté viril de la littérature japonaise. Et les autres écrivains qui écrivaient des romans à la première personne donnaient plutôt, à son avis, dans le genre journal intime, qui, pendant les siècles de Heian et les siècles suivants, avait été plutôt l'apanage d'une littérature féminine. Et il y a aussi, dans cette notion d'homme et de femme, une connotation politique, c'est-à-dire que lorsque le Japon, dans l'article 9 de sa constitution, a supprimé définitivement son armée, cela l'a profondément choqué parce qu'il apparente du coup le Japon à un pays, à une femme violée, puisqu'elle n'a plus son armée. Et ce qu'il voulait dans sa harangue de la juste avant son seppuku, c'est faire abolir cet article 9 pour redonner au Japon une armée et que le Japon retrouve sa virilité par le truchement de son armée.
Vous croyez que ce souci de virilité veut remonter à des éléments biographiques de la vie de Mishima ?
Je pense qu'il a une relation assez complexe avec les femmes et le personnage féminin. Si on observe ces romans, on s'aperçoit que les femmes ont généralement une très forte personnalité, sont souvent un peu plus âgées que les héros masculins et sont beaucoup plus sereines, beaucoup plus ancrées sur terre, ont beaucoup plus de bon sens, parfois beaucoup plus de courage et de cohérence. Et le héros masculin en face apparaît très en proie à ses contradictions, très instable, très très nerveux. Et certainement, il y a une admiration envers la partenaire qui est à la fois femme, amante, épouse, mais un peu aussi mère. Et on peut se demander si derrière cette admiration envers les femmes et en même temps cette distance qu'il manifeste à l'égard des femmes ne se profilerait pas un peu une relation qu'il aurait eue avec sa mère, c'est-à-dire une très grande admiration pour cette femme, mais dans la mesure même où elle était sa mère, où il a été brutalement séparé d'elle pendant son enfance, elle doit apparaître comme l'élément tabou qu'on ne peut atteindre que par la transgression.
D'ailleurs, sa mère, à l'annonce du suicide de Mishima, a été très compréhensive et elle a dit « Enfin, il a fait ce qu'il voulait ».
Oui, c'est certain qu'elle a compris, me semble-t-il, ce qui était assez patent dans toutes ses œuvres. Et de toute façon, elle a toujours suivi son fils dans tout ce qu'il a écrit. Elle était sa première lectrice, elle corrigeait ses œuvres, elle le conseillait. Elle était elle-même fille d'un lettré confucianiste, elle lisait beaucoup en langue étrangère et en japonais. Donc elle a vraiment été un guide pour son fils. Et c'était la personne dont il se sentait beaucoup le plus proche.
Son premier roman, qui n'est pas, je crois, traduit ici, tout à fait un premier roman très maladroit, était sur deux jeunes voleurs qui s'immolaient par le suicide, deux jeunes voleurs nobles qui s'immolaient par le suicide, et même à l'époque, cela avait assez choqué. Mais je veux dire qu'à travers toute son œuvre, il y a cette obsession du suicide. Et donc, il n'a fait qu'actualiser des choses qu'il a même jouées au cinéma, parce que j'ai vu ce film extraordinaire qui est tiré de sa nouvelle qui s'appelle « Patriotisme », et qui, ici, à la Cinémathèque, se donnait sous le titre « Rite d'amour et de mort », qui est un film fabuleux, très dur, sur le suicide d'un jeune lieutenant et de sa femme, après un coup d'État manqué, et où Mishima lui-même jouait le rôle du jeune lieutenant avec une casquette extrêmement enfoncée sur le front, et on voyait simplement briller ses yeux, des yeux tout à fait prodigieux.
Il a choisi une mort traditionnelle, il a choisi la mort qui est la plus douloureuse, la plus lente qu'on puisse imaginer, et qui ne peut se justifier, enfin, si on peut employer ce terme, que dans la mesure où c'est la mort traditionnelle du Bushido. Et je ne suis... Bon, cela peut paraître avoir un aspect un peu exotique pour l'Occident. Pour Mishima, il s'agissait de répondre à un besoin précis, à son culte du Bushido, à son dévouement pour l'empereur qu'il considérait comme sacré. Donc ce sont vraiment des valeurs japonaises, à mon avis, qui ont joué à ce moment-là. Je reviendrai un peu sur le Bushido, c'est-à-dire l'aspect culturel qui sert de modèle, qui structure par un modèle extérieur la pensée de Mishima. La voie du samouraï, c'est la mort, a dit Yamamoto Jōchō, qui a écrit un des livres de chevet de Mishima. Cette mort, c'est le seppuku. Donc, en se considérant comme le dernier des samouraïs, Mishima était parfaitement cohérent en se faisant seppuku à un moment donné. Mais c'est un cadre qui lui est très cher et qui est à la fois son éthique et son esthétique. Je pense que ça ne couvre pas tout. Il y a aussi une fascination de la mort qu'il porte dès qu'il a 5 ans, enfin en tout cas qui semble s'exprimer dès qu'il a 5 ans, si on en croit Confession d'un masque. Puisque dès lors qu'il voit apparaître ce jeune et beau vidangeur, il est épris de lui tout de suite parce que pour lui cette beauté est érotique et que cette beauté est érotique parce qu'elle est liée à la mort, parce que le vidangeur est voué à la mort. Donc, dès ses toutes premières années, la beauté est tragique, la tragédie est érotique, la mort est imbriquée dans tous les moments intenses de Mishima.
Le plus remarquable des romans de Yukio Mishima, qui porte un titre singulier, il s'appelle Le marin que la mer abandonne. C'est l'histoire d'un marin qui tombe amoureux de la mère d'un petit garçon de 13 ans. Le petit garçon de 13 ans s'aperçoit de l'amour de sa mère et assiste même à une scène où sa mère et le marin sont à la dernière intimité et il n'en est pas choqué du tout. Il est même finalement ébloui par le marin, qui représente pour lui une sorte de chevalerie, quelque chose d'extrêmement viril, d'extrêmement pur, d'extrêmement dur. Il y a tout un romantisme de l'enfance qui se fixe pour lui et pour ses camarades, car ils sont toute une bande de gamins de 12 à 13 ans, sur ce marin qui est un officier marinier. Et puis, le marin et sa mère décident de se marier. Et le marin, qui est un brave type, commence à avoir vis-à-vis du petit garçon des attentions tout à fait paternelles. Il le gronde, mais aussi il lui apporte des cadeaux. Enfin, il se conduit en bon père de famille. Ce qui bouleverse le garçon et ce qui le choque profondément. Tout d'un coup, brusquement, le marin est tombé de son piédestal. Les enfants qui partageaient l'admiration du petit garçon partagent son indignation. Et décide quoi ? Eh bien, de le punir, c'est-à-dire tout simplement de le tuer. Pour ça, il faut s'entraîner, on ne peut pas tuer un homme comme ça. Alors, il commence par tuer un chat. Et l'assassinat, parce que c'est un véritable assassinat, l'assassinat du chat est un des chapitres les plus horrifiques de ce livre qui, en lui-même, est déjà assez effrayant. On assiste à l'assassinat du chat, qui est une espèce d'épreuve initiatique, comme il y en a au fond dans les sociétés primitives, où toute la cruauté de la nature humaine à l'état naissant de la nature masculine qui aime la guerre, le meurtre et le ravage se donne libre cours. Ensuite, le chat étant mort, c'est très difficile de tuer un chat, ensuite le chat étant mort, les enfants donnent rendez-vous au marin, soi-disant pour qu'il leur raconte des histoires et soi-disant aussi pour lui offrir le thé. Et là, le livre se termine exactement au moment où ils offrent une tasse de thé légèrement droguée au marin pour pouvoir ensuite, lorsqu'il sera endormi, l'assassiner tranquillement.
Marguerite Yourcenar.
J'ai lu ce qu'on pouvait lire de Mishima dans les langues européennes. Et j'ai trouvé que c'était un cas passionnant, passionnant du point de vue du Japon, passionnant du point de vue de notre époque. Parce que certains livres auraient pu être écrits à Sydney, à Londres, à Paris, et surtout dans les pays qui ont été dévastés. Mettons par un jeune homme à Dresde, à Canterbury, à Rotterdam. Enfin, n'importe qui aurait traversé à 20 ans une période de désarroi par la guerre. Le déchirement de Mishima, l'angoisse de Mishima, me paraît essentiellement, surtout, d'ordre idéologique. Toujours demander à la vie le maximum de ce qu'elle pouvait donner. Eh bien, il a essayé, puisqu'il a essayé, après une période de tuberculose, de se refaire un corps, qu'il est devenu un athlète remarquable, qu'il a fait la chambre de décompression, qu'il a fait des sauts de parachutiste, qu'il a fait du kendo, et qu'il est arrivé à un degré très, très honorable dans cet art difficile. Enfin, qu'il a fait un peu de tout en matière de sport dangereux. Que, d'autre part, il a fait environ 2 fois le tour du monde, qu'il a fini par se préoccuper de politique en y entrant par le biais, en quelque sorte, de la satire de la politique. Et pour finir, ben, s'est laissé prendre. Ça, c'était peut-être une échappatoire en présence du désespoir, le moment où un écrivain, tout d'un coup, devient communiste, ou devient catholique, ou devient n'importe quoi. C'est-à-dire, s'engage dans un groupe parce que son désespoir ne lui montre plus d'autre issue. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois beaucoup moins de raisons personnelles que de raisons idéologiques pour le drame de Mishima. Et c'est une des choses qui m'intéresse.
Rien n'aurait pu mieux s'accorder à la définition de l'œuvre d'art qui avait longtemps été mienne que ce concept de la forme enveloppant la force, associé à l'idée que l'œuvre doit être organique, de toutes parts rayonnant la lumière.
Alors pour en revenir à son harakiri, son suicide,
Jean-Marc Potier.
Les Japonais n'ont pas très bien compris, ils ont été choqués comme la plupart des Français. Mais surtout parce que, évidemment, ils ont perdu quelqu'un de prestigieux sur un geste absolument romantique. Mishima Yukio, qui jusqu'ici ne se préoccupait pas de politique, donc le 25 novembre dernier, est entré avec un commando de 5 membres, composé de pris sur son armée personnelle, une armée qu'il avait formée. Il a donc pénétré dans le quartier général des forces d'autodéfense japonaises à Tokyo. Capturer un général qu'il connaissait assez bien, ligoter sur son fauteuil et lui imposer des conditions, en lui disant, voilà, rassemblez tous les hommes de la garnison, nous allons leur parler. Si vous ne le faites pas, Mishima vous tue et ensuite se fait harakiri. Le général, évidemment, croyait que c'était une plaisanterie, parce que même pour un Japonais en 70, ce n'est pas très sérieux de se faire harakiri sur ces conditions-là. Mais quand il a vu que les gens étaient nerveux, qu'ils commençaient à manier leurs sabres, il a donné l'ordre à toute la garnison de se rassembler. À peu près 1 000 000 de civils, d'officiers, de soldats se sont rassemblés. Mishima est apparu au balcon et a fait un discours. Un discours politique en disant, voilà, vous n'êtes pas des vrais soldats, vous vivez sous une constitution imposée par les Américains, cette constitution interdit au Japon de faire la guerre. Or, l'armée au Japon doit être celle qui défend l'esprit du Japon, c'est elle qui doit être en avant. Donc, modifiez la constitution, révoltez-vous et demandez le droit de faire la guerre. Il parlait sans micro, les gens n'entendaient pas, on l'injuriait, etc. Mishima a disparu, revenu dans le bureau du général, et sous les yeux horrifiés du général, a commencé à se dévêtir. Et là, il s'est fait harakiri, c'est-à-dire s'est plongé la lame du sabre dans l'estomac, les entrailles sont sorties. Et à ce moment-là, comme le veut la tradition samouraï, c'est le meilleur ami qui se tenait derrière lui, qui lui a tranché la tête d'un coup de sabre. L'autre ami en a fait autant, et une autre tête a volé. 2 têtes dans une mare de sang. C'était la photo à la une de tous les journaux qui ont paru le soir même dans tout le Japon.
C'est un homme qui gêne les Japonais d'aujourd'hui parce que, pour commencer, sa geste était bien anachronistique.
Henry Scott Stocks.
Et ça a rappelé, ça a fait penser les Japonais aux guerres mondiales, aux deuxièmes guerres mondiales.
Dimanche, 3h30 du matin. Nous sommes à l'écoute de la radio des Nations Unies annonçant la reddition officielle du Japon.
Ladies and gentlemen, the President of the United States, in Tokyo Bay.
the thoughts and hopes of all America, indeed of all the civilized world, are centered tonight on the battleship Missouri.
Ce soir, espoir de toute l'Amérique, de tout l'univers civilisé, toutes nos pensées se reportent sur le Missouri, sur cette parcelle de territoire américain ancrée dans la baie de Tokyo. Les Japonais ont officiellement signé les termes de la capitulation sans condition.
Ce sont des souvenirs assez tristes. C'était la première défaite du Japon en histoire. En 2011, c'était la seule fois qu'il s'était battu par un pays étranger. Et voilà, ce geste fait penser les Japonais à ce désastre total de l'année 45. Et ils ne veulent pas en penser, parce que pour eux, ils sont très réalistes, la défaite est irréversible. La défaite est un fait historique, et ils sont obligés de le reconnaître. Alors Mishima, pour beaucoup de Japonais, a essayé de contredire, de changer l'histoire sans. Et ils pensent que c'est un geste inutile, horrible, gênante. Alors, il y a beaucoup de mots qu'on peut attacher à ce suicide pour qualifier la qualité de ce suicide aux yeux des Japonais. Surtout, c'était pour les gens de son âge un geste détestable. Et en même temps, quand on parle beaucoup avec les Japonais, évidemment, j'ai beaucoup d'amis japonais, on voit que sous cette attitude de goût devant le suicide de Mishima, il y a en même temps une sorte d'admiration. Parce que, qu'est-ce qu'il a fait? Il se faisait harakiri. Et l'harakiri est pour les Japonais une sorte de prière. C'est une sorte de prière, c'est une rite, c'est un acte religieux. Il y a beaucoup d'aspects de cette rite qui trouble les Japonais beaucoup quand ils pensent à Mishima. En même temps, ils sont gênés, en même temps, ils l'admirent. La morale du samouraï. Mishima a beaucoup parlé de la morale du samouraï, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il n'a pas beaucoup lu sur la morale du samouraï. Il y a un seul livre qui s'appelle Hagakure, qu'il a certainement lu, mais il était content de voir, de bien lire un seul livre sur cette morale du samouraï. Et qu'est-ce qui était important pour les samouraïs? C'était, si vous voulez, dans un mot, c'était la mort. Et on est bien préparé à mourir sur place, pour son pays, ou pour n'importe quel but. On est prêt à mourir tout de suite. Et c'est ça, une partie de la morale des samouraïs que Mishima a bien pris. Mais l'aspect du moral des samouraïs, qui était le plus important dans les dernières années de sa vie, c'était un idéal qui s'appelle en japonais Bombo Ryodo, c'est-à-dire l'union entre les arts militaires et les arts. Et par exemple, le vrai samouraï doit être un perfectionniste, il doit être un merveilleux porteur du sabre, et en même temps, il doit être un artiste. Eh bien, Mishima a voulu finir sa vie en se tuant et en même temps, le même jour, en finissant son dernier livre. Et là aussi, c'était, si vous voulez, un geste de théâtre, parce que la réalité, c'est qu'il a fini son dernier livre quelques mois avant sa mort. Ça, il n'a dit à presque personne, mais il a signé les dernières pages le jour de sa mort, pour, si vous voulez, pour pour être un bon samurai.
Il ne s'octroie le droit d'être écrivain et de jouer avec les mots qu'à la mesure où il sait que par ailleurs, son corps agit, son corps souffre, son corps se muscle et que son corps est voué à une mort violente.
Vous dites d'ailleurs, Annie Tchéki, que Mishima avait des complexes à l'égard du métier d'écrivain et que l'idée de la mort volontaire qu'il avait probablement déjà depuis longtemps le rassurait, si l'on peut dire.
Oui, c'est-à-dire que Mishima avait un superbe idéal qui n'était plus valable à son époque. C'était l'idéal de l'homme total, le samouraï du passé, qui cultivait la double voie des lettres et des arts martiaux, ce que les Japonais appellent bumbu, la littérature et les arts martiaux. Mais les deux voies s'étaient complètement éclatées depuis la révolution Meiji. Il y avait des intellectuels confinés dans leur statut d'intellectuel et ayant perdu finalement beaucoup de leur pouvoir. Et par ailleurs, les forces vives de la nation, les industriels, les banquiers, les fonctionnaires de l'État, etc. Et c'est ce statut, pour lui, marginal, frustrant de l'intellectuel qu'il ne pouvait pas supporter.
La tension de la vigile nocturne, que ce fût sur terre ou sur mer, voilà ce que je recherchais dans l'écriture. Plus que tout, je détestais être vaincu. Peut-il être pire défaite que lorsqu'on est corrodé, brûlé de l'intérieur par les sécrétions acides de la sensibilité jusqu'à perdre finalement sa silhouette, jusqu'à se dissoudre, se liquéfier, ou quand la chose se produit pour la société alentour et que l'on y accommode son propre style?
Justement, tous ces gens auxquels vous faites allusion, les banquiers, les hommes d'affaires, ont très mal réagi à cette mort de Mishima.
Ils ont très mal réagi parce que pour eux, ils allaient dans le sens d'une démocratisation du Japon. Et dans la mesure où cette démocratisation et ce commerce international reposaient sur une certaine image du Japon, une certaine entente avec les pays occidentaux, cette mort de Mishima tombait vraiment très mal parce qu'elle pouvait laisser croire aux pays occidentaux et en particulier aux USA que le Japon d'antan était toujours là, que les vieux démons étaient toujours là, que la façade démocratique et pacifiste du Japon, c'était une apparence, mais qu'en fait, le péril jaune, le militarisme japonais, les samouraïs, etc., étaient toujours en place quelque part.
Depuis son premier livre, n'est-ce pas, depuis le livre qu'il a intitulé « Kamen no Koku Haku », « La confession d'un masque », qui était tout à fait autobiographie puisqu'il se racontait. Il y avait déjà là l'affrontement à quelque chose qui était pour lui terrible, c'est-à-dire qu'il ne correspondait pas du tout physiquement à ce qui était son idéal, l'idéal du guerrier japonais, du samouraï, idéal ensuite qu'il a orienté vers une contemplation beaucoup plus esthétisante, en faisant bien la direction d'ailleurs entre l'attraction pour ce qu'on appelle le wakashu, c'est-à-dire les jeunes gens, c'est pas les garçons, les éphèbes, et la représentation du guerrier. Et puis aussi, cette impossibilité à dominer l'histoire. C'est ça qui va le conduire au drame. Et on sent cela dès ses premières œuvres, à la fois au plan personnel, puisque l'un de ses livres les plus importants du début, qui date de 1951, qui pourrait se traduire par « Amours interdites », c'est Kinjiki. Et on peut considérer également que le « Pavillon d'or », qui lui date de 1956, qui est l'un de ses plus beaux livres, qui est sans doute l'un des livres les plus représentatifs de l'art de Mishima dans la tradition, est aussi un livre dramatique, c'est-à-dire qu'un jeune... enfin, il n'est pas encore bon, n'est-ce pas, mais un jeune élève de monastère met le feu à l'un des plus beaux pavillons de Kyoto, le pavillon d'or. C'est-à-dire que c'est la destruction de ce qui représente la beauté, de ce qui représente en même temps une sorte de pérennité de l'esprit japonais, de l'âme japonaise. Pourquoi ? Parce que le Japon n'est plus dans le Japon, comme on disait autrefois que Rome n'était plus dans Rome. Du moins pour des âmes aussi exigeantes que celles de Mishima.
Donald Keane.
Et je crois que c'est le seul parmi les romanciers de son âge et même de nos jours qui connaît à fond les traditions japonaises et qui les continue, qui sait comment introduire dans un roman contemporain où il traite des questions qui sont purement de nos jours, des façons d'écrire traditionnelles.
Dans l'art, il m'appartenait de défendre ma citadelle. Il fallait être défenseur robuste au-dedans de l'art et valeureux combattant au-dehors. Mon but dans la vie était d'acquérir les multiples attributs du guerrier.
Oui, c'est ça. Il y a même dans ces pièces qui sont contemporaines, des revenants, ce qui n'existe presque plus de nos jours. Et une poésie qui n'est pas seulement une poésie de mots, mais une poésie de forme, une poésie d'expression entière qui donne à ces pièces une autre dimension, qui donne quelque chose de vraiment émouvant, même à des histoires qui sont en principe des choses assez mondaines.
Il est classique dans la mesure où la première partie de l'œuvre, je parle là des romans comme le Pavillon d'or, et la dernière partie de l'œuvre, la mère de la fertilité, etc., savent à la fois utiliser l'introspection, le paysage, qui est extrêmement important dans la conception romanesque japonaise, dans la conception de la poésie également, et avec une écriture qui est une écriture surveillée. Encore que, il faut bien préciser qu'aux yeux de, par exemple, de quelqu'un comme Kawabata, surtout à la fin de sa vie, Mishima n'était plus un très bon écrivain, n'est-ce pas ? Il a émis quelques réserves feutrées, mais disent les Japonais cultivés, assez fondées sur une sorte de relâchement de l'écriture, de facilité de l'écriture. Mais il est classique dans la mesure où il tente de dominer le prétexte pour atteindre à l'expression d'une sorte de pérennité japonaise. C'est dans cela qu'il peut être considéré comme classique. Également par ses obsessions. Il faut aussi considérer qu'à part la Confession d'un masque, tous les premiers livres ont trait à une société qui est une société tout à fait close sur elle-même. Il n'y a pas du tout de plongée dans le Japon contemporain.
Politique en 1960 à propos du traité de paix avec l'Amérique, du renouvellement du traité de paix. La gauche est très opposée au renouvellement de ce traité et Mishima prend à ce moment-là conscience des événements politiques. Et d'autre part, il y a aussi à ce moment-là la lecture de Bataille, qui n'est pas proprement un événement politique, mais qui va beaucoup conditionner l'écriture de Patriotisme et de certaines autres de ses œuvres, puisque c'est là qu'il ne découvre pas, mais qu'il trouve la confirmation de l'alliance entre l'érotisme et la mort. Et dans Patriotisme, disons qu'il y a une sorte de convergence entre une affirmation du Bushido qui n'était pas si nette auparavant, mais aussi sa vision personnelle de l'érotisme de la mort.
Giuseppe Fino, dans un livre très intéressant intitulé « Mishima, écrivain et guerrier », c'est un livre traduit de l'italien, se demande si toute l'évolution spirituelle du Mishima n'est pas en fait un mythe du retour. Et donc 1960, en tout cas à partir de cette époque-là, ça marquerait précisément le retour dans la vie du Mishima.
Je crois que c'est une interprétation tout à fait acceptable, d'autant plus que Mishima était très séduit par Nietzsche. Il a lu avec passion La naissance de la tragédie pendant ses années d'université et ensuite. Et d'autre part, il est certain que toute la pensée bouddhique, avec le système des réincarnations, système qu'il a mis en œuvre dans sa tétralogie, peut amener à cette notion de retour. Je ne partage pas tout à fait le point de vue de Monsieur Fine, parce que il découpe la vie de Mishima en un certain nombre d'étapes. Il y aurait d'abord le romantisme, puis le classicisme, puis le romantisme. J'ai plutôt l'impression que les choses ont coexisté chez Mishima et qu'il y a toujours eu, à mon sens, une veine classique qui contrebalançait une pulsion romantique, disons. Et d'autre part, pour la notion de retour, je crois que sa vision du passé est une vision assez plate, assez atemporelle. Il y a le Japon d'avant, qui est une sorte de Japon éternel, immuable. Le point de vue historique est complètement gommé dans la mesure où il y a presque un siècle qui s'est écoulé depuis lors. Donc c'est moins une vision cyclique qu'il a de l'histoire qu'une perfection qui était avant le Japon moderne et depuis une sorte de pseudo-Japon occidentalisé qui a perdu sa vérité profonde.
La coupure chez Mishima, elle date effectivement du début des années 60. Et en 61, il écrit et publie Yokobu, qui est la nouvelle que l'on a traduite sous le titre Patriotisme. C'est d'ailleurs une traduction un petit peu aléatoire, parce qu'on n'a pas du tout l'équivalent du mot Yokobu, qui est un petit peu le dévouement à l'idée de patrie, mais en même temps, tout cela est mêlé de dévotion à l'empereur. Enfin, c'est une notion très complexe qui est assez peu européenne aujourd'hui. Alors, ce que l'on n'a jamais considéré, c'est que cette année 60, c'était un anniversaire. 100 ans plus tôt, il y avait déjà eu, contre la fin des shoguns Tokugawa, une révolte des samouraïs, n'est-ce pas ? Parce que les Tokugawa, qui étaient les shoguns, donc qui disposaient du pouvoir, avaient ouvert le Japon aux étrangers. Et on a commencé par tuer des diplomates, par tuer des commerçants, y compris des Japonais qui commerçaient avec la Grande-Bretagne, avec les Pays-Bas, etc. Il y avait eu là une guerre civile accompagnée de terrorisme qui a été extrêmement importante. Et qui s'est complètement, dans ses conséquences, qui s'est complètement renversé. C'est-à-dire que, en démolissant, en obligeant les shoguns à abdiquer et en réinstallant l'empereur dans tout son pouvoir à l'ancien Edo, qui est donc devenu Tokyo, les révoltés, les rebelles, ont considéré qu'au fond, ce qu'il fallait faire, c'était non pas abandonner le Japon aux étrangers, mais prendre aux étrangers leur pouvoir, c'est-à-dire les imiter, les saisir, n'est-ce pas, comme Hideyoshi l'avait déjà fait au XVIe siècle, quelles étaient les racines de leur puissance, c'est-à-dire le système bancaire, l'industrie, l'armement, etc. Et à partir de là, il y a eu un renversement complet de l'histoire du Japon, et c'est le début de l'ère Meiji. 100 ans plus tard, Mishima considère que le Japon est en train de s'abandonner à ses occupants, à ses étrangers. Et c'est là où la panique le saisit, cette espèce de panique patriotique, cette espèce de phénomène pour nous absolument extraordinaire, n'est-ce pas, qui fait que cet écrivain, qui est aussi un esthète, il ne faut pas l'oublier, va plaider la cause d'un renouveau du Japon, comme les samouraïs l'avaient fait vers 1860, entre 1860 et 1865, et va prôner un retour à un Japon fort, musclé, ressaisissant non seulement ses pouvoirs, mais reprenant aux étrangers une partie de leur technicité. Et c'est à partir de ce moment-là que l'œuvre bascule, comme la mentalité de Mishima, elle bascule dans une sorte d'extrémisme.
Le principe de l'épée semblait consister en une alliance de la mort, non point avec le pessimisme et l'impuissance, mais avec une énergie surabondante, fleur de la perfection physique, et avec la volonté de combattre. Rien de plus éloigné du principe de la littérature. En littérature, la mort est tenue en échec, quoique, en même temps, utilisée comme élément moteur. La force est appliquée à construire de vaines fictions. La vie est en réserve, mélangée avec la mort selon une formule exacte, puis traitée avec des préservatifs, et enfin répandue pour la production d'œuvres d'art qui jouissent d'une étrange immortalité. L'action, pourrait-on dire, périt dans sa fleur. La littérature, elle, est une fleur impérissable. Et, bien entendu, une fleur impérissable est une fleur artificielle. Si bien que combiner l'action et l'art, c'est combiner la fleur qui se flétrit et la fleur qui dure à jamais. Mêler chez un individu les deux désirs les plus contradictoires de l'humanité et les rêves de réalisation propres à chacun de ces désirs.
Il a quand même un esprit de contradiction terrible et il a pris totalement à contre-courant son époque. Donc c'est difficile de le voir symboliser une époque. Je pense qu'il y a là aussi, parce qu'on a ce que Ivan Morris appelle la noblesse de l'échec, prendre systématiquement le contre-pied de tout ce que les gens font à son époque. Les gens sont à gauche, il ne sera pas à gauche. Les gens donnent dans le réalisme, il ne refusera le réalisme. Donc, il est le symbole d'un esprit, d'un révolté, d'un rebelle, de quelqu'un comme Saint-Sébastien qui défie les dieux. Bon, lui, il défie sa société.
Chez Mishima, le rituel a valeur de sacré. Et je pense que ce goût du sacré est très vif dans une pièce de théâtre qu'il a faite, que je trouve magnifique, qui est Madame de Sade, où Sade revient vers Madame de Sade, repentant, grossi, vilain, incapable de s'adonner à la débauche à laquelle il était habitué. Et Madame de Sade le refuse parce qu'elle trouve qu'il n'est plus capable, il n'est plus digne d'aimer Satan ni Dieu. Et alors elle le refuse. Et ça justement, c'était chez Mishima très très cruel, cette passion ou de Dieu ou de Satan.
C'était Mishima, l'épée et le cerisier, une émission de Bénédicte Niocret. Les traductions françaises des livres de Mishima sont publiées aux éditions Gallimard. Citons notamment Le pavillon d'or, Le soleil et l'acier, d'où ont été tirés les extraits lus, La mère de la fertilité. À lire sur Mishima, Mishima ou la vision du vide de Marguerite Yourcenar, La vie de Mishima de John Nathan, l'article d'Annie Tchéki dans L'état du Japon aux éditions de La Découverte, Henry Scott Stocks, Vie et mort de Yukio Mishima, et enfin Mishima, écrivain et guerrier de Giuseppe Fino. Les textes étaient lus par Pascal Sablier, document INA. Groupe de réalisation, Yvan Charby, Gérard Servet, Jacques Taroni.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 15 novembre 1990.